retour en ondes. On vient d'écouter une chanson des amis de ta femme qui s'appelle La grève des mères et qui porte justement sur le thème du féminisme. Bien que cette chanson-là date un peu et qu'elle ne soit plus nécessairement autant d'actualité pour ce qui est de certains thèmes, il y en a un qui reste toujours aussi évident, puis c'est dans le fond le féminisme, la condition des femmes, et surtout à travers le monde, mais aussi dans nos sociétés occidentales et confortables. Puis on a avec nous Thioré et Claudel qui vont aborder le sujet. Pourquoi? Parce qu'ils sont membres d'un regroupement, je crois que c'est le regroupement du 8 mars, qui organise, mais en tout cas, bref, je me suis peut-être trompé, mais qui vont organiser le 8 mars prochain une marche. Je vais les laisser se présenter elles-mêmes.
Oui, bonjour, moi c'est Thioré, je suis militante, entre autres dans le mouvement étudiant, dans le mouvement communautaire pour le RAGE, qui est le regroupement autonome des jeunes, qui fait dans la défense de droits des jeunes à Sherbrooke, ici.
Moi c'est Claudel, j'étudie en études des femmes à Bishop. Je me suis impliquée dans divers comités femmes, puis voilà.
Pour faire une brève histoire de pourquoi qu'on a décidé d'organiser une marche ici à Sherbrooke, en fait, c'est qu'on discutait ensemble quelques militants, puis on s'est rendu compte, en fait, que la condition des femmes, c'est toujours à travailler, à retravailler, tout ça. On sent la pertinence, tu sais, de continuer la lutte féministe ici au Québec, plus spécifiquement aussi à Sherbrooke. On remarque qu'il y a encore beaucoup, beaucoup... le système patriarcal est encore là, je veux dire. Il y a beaucoup de...
D'oppression,
ouais, sur les femmes, exactement. Donc, dans tous les domaines. Donc, quand on parle de la privatisation des services sociaux, un impact sur les femmes, on parle qu'on n'a pas encore l'équité salariale, entre autres, qu'on menace le droit à l'avortement. Donc, nous, on voyait la pertinence de faire une action, en fait, pour le 8 mars, le jour des femmes.
Je crois que ça faisait déjà un moment qu'à Sherbrooke, ça n'avait pas eu lieu le 8 mars.
Ça faisait 4 ans environ qu'il n'y avait pas eu de marche ici à Sherbrooke pour le 8 mars, exactement.
Mm-hmm. Okay. Donc, il y avait eu différentes activités, mais on voyait la pertinence de se faire, de faire valoir nos droits dans la rue.
Oui, exactement. Puis donc, on discutait ensemble, puis on a essayé de regarder dans nos réseaux, puis d'envoyer une invitation large, puis d'aller rejoindre les groupes de femmes, comme par exemple Concertaction Femmes-Estrie, qui est un organisme qui regroupe en fait 16 autres organismes qui fait dans la condition féminine ou qui travaille pour les femmes, en fait, donc à Sherbrooke. Donc, on a rejoint plusieurs groupes comme ça, Comité Mobilisation de la GFLECH, qui est la Faculté des hautes sciences humaines, Comité Femmes de l'AEX, qui est l'Association du cégep de Sherbrooke. On a aussi... Ouais, c'est ça. Donc, on s'est assis, puis on a décidé de partir une marche. Puis c'est comme ça que le projet a démarré.
OK. Donc, plusieurs femmes de plusieurs horizons qui ont décidé de s'organiser pour le 8 mars. Puis, je pense que vous allez nous offrir...
Majoritairement aussi des jeunes féministes.
Oui, des jeunes filles qui vont nous présenter une journée le 8 mars. C'est à peu près à quoi va ressembler la journée? Je sais qu'il y a plusieurs choses de prévues.
OK. Pour faire une synthèse de la journée, en fait, ça débute à 10h30. Il y a un brunch qui se passe à la Chaudronnée, organisé par Concertaction Femmes-Estrie, l'organisme dont je viens parler. Donc, le brunch se fait là à partir de 10h30. À 11h30, à la même place, il y aura une conférence de presse justement pour parler de la marche, puis pourquoi qu'on fait la marche, pourquoi qu'on est féministe, tu sais, pourquoi qu'on est jeune et féministe à Sherbrooke. À 13h30, il y a une marche qui va débuter, qui va partir de l'Hôtel Dieu, en fait. On va faire plusieurs arrêts durant la marche sur des sujets différents. On va commencer par l'Hôtel Dieu, où est-ce qu'on va parler aux gens de la privatisation des services sociaux, puis les impacts plus spécifiques sur les femmes de cette privatisation-là, exactement. Ensuite, le trajet va se poursuivre. On va repasser devant la Chaudronnée, où est-ce qu'il y a un organisme, la table, qui va faire... ils vont parler pour... de la pauvreté, en fait, puis comment ça a un impact spécifiquement sur les femmes aussi, mm-hmm. sur en quoi ça a un impact. Ensuite, on continue notre trajet, puis on arrête
peut-être
à...
Peut-être mentionner aussi que le brunch est organisé par, c'est quoi, restaurant d'un jour. Donc, la bouffe va être faite, ça va être de la bouffe africaine, je pense.
C'est ça, c'est Concertaction Femmes-Estrie qui organise, puis ça va être des femmes qui viennent, je me rappelle plus du Congo, République démocratique du Congo, qui vont organiser la bouffe. Donc, c'est ça. Pour poursuivre le trajet, on arrête au cinéma, après à la Maison du cinéma, où est-ce qu'on a Michel Batz là aussi, qui est professeur à l'Université de Sherbrooke en travail social, qui va nous parler de la pertinence du féminisme aujourd'hui, pourquoi que c'est toujours d'actualité. Ensuite, on embarque sur la Wellington, où est-ce qu'on va s'arrêter, on va faire un arrêt pour parler, entre autres, du GHB, de la marchandisation du corps des femmes, puis aussi du travail du sexe. Ensuite, on passerait au 187 rue Laurier. Pour ceux qui ne connaissent pas le 187 rue Laurier, c'est le bâtiment où est-ce qu'il y a beaucoup d'organismes communautaires à Sherbrooke qui sont regroupés là, en fait. On va parler de la construction du mouvement communautaire par les femmes au Québec, parce que les femmes ont construit le mouvement communautaire. Puis aussi des coupures dans les mouvements, dans les organismes communautaires, puis l'impact que ça a spécifiquement, mettons, sur les organismes qui font, qui travaillent avec les femmes, pour les femmes, par les femmes.
Juste mentionner aussi que pour nous, c'était super important d'être le plus inclusif possible, donc de penser à tous les groupes de femmes qui sont spécifiquement opprimées, comme les travailleuses du sexe, les femmes autochtones, les femmes immigrantes, quoi d'autre?
Oui, exactement. Puis, puis le dernier arrêt, ce serait statue sur King. On monte sur King, on arrête à la statue militaire, pour parler justement de la militarisation, puis comment ça a un impact sur les femmes, le viol en temps de guerre.
L'abus du corps policier sur les femmes.
L'abus du corps policier sur les femmes aussi.
Puis parlant, je me souviens d'une citation, je ne sais plus exactement de qui disait... qui est encore plus inconnu que la femme du soldat inconnu, genre, juste pour prouver un peu la situation dans laquelle se trouvent les femmes en temps de guerre. Puis, c'est pas le seul aspect, mais bon.
Oui, exactement. Puis, c'est ça. Donc, ça va être une manifestation qui va être... ça va être une belle manifestation. Où est-ce qu'on va aussi distribuer... on a le comité du 8 mars, si on peut s'appeler comme ça. On n'a pas de... On n'a pas encore un nom officiel. On peut s'appeler le comité du 8 mars. On a participé à la construction d'une revue, en fait. On a fabriqué une revue dans laquelle il y a plusieurs articles qui vont toucher aussi le sujet des femmes autochtones, entre autres, le sujet du GHB, la pertinence du féminisme, privatisation, fondation du communautaire. Donc, tous les thèmes vont se retrouver. Donc, les gens vont pouvoir avoir une revue à lire après sur le féminisme. À 16h30, ben 16h30, en fait, tout de suite après la manifestation, on va être au RAGE, au local du RAGE, qui est au 101 Balles. Il y a le collectif pour une université libre qui fait des bouffes solidaires à l'université depuis maintenant un bon moment, quelques années, qui va nous avoir concocté un bon petit souper à contribution volontaire. Donc, on donne ce qu'on veut. Où est-ce que les femmes et les hommes, en fait, vont pouvoir se regrouper, puis on va pouvoir discuter aussi du féminisme, en fait, et des perspectives et tout ça. Puis ensuite, j'invite les gens à venir à la bibliothèque Eva Sénécal, parce qu'à 19h, il y a un visionnement d'un film qui est organisé par le comité des femmes de la Fédération culturelle à Sherbrooke.
C'est donc une journée très bien remplie sur le thème du féminisme et de la condition des femmes.
Oui.
Puis justement, parlons-en du féminisme et de la condition des femmes.
Un dernier événement annoncé. Je pense que c'est le mardi 10 mars. Il va y avoir le visionnement de Polytechnique
à la Maison du cinéma à 17h30. Puis c'est organisé par le comité conditions féminines de la CSN. Puis il y a un goûter, mais c'est sous réservation. Fait que pour les gens qui sont intéressés à y aller, peuvent appeler au 819-563-6515. Puis pour ce qui est de la marche et du brunch, les gens peuvent appeler au RAGE en appelant au 542-1045.
Puis le visionnement est gratuit, si je me trompe
pas.
Parfait. Donc, on va en revenir justement en quoi le féminisme et la condition des femmes est toujours d'actualité. J'ai beaucoup de pistes de réflexion, mais je pense que vous en avez davantage.
On pourrait y aller point par point, peut-être en commençant par faire une présentation. Qu'est-ce que vous en pensez?
On aurait aimé de parler de la naissance de la journée internationale des femmes du 8 mars. Donc, Claudette va peut-être commencer.
Oui, je vais y aller avec l'historique. Donc,
international.
Donc, le 8 mars a son origine au début du 20e siècle avec des manifestations en Europe et aux États-Unis de femmes qui réclamaient le droit de vote et des meilleures conditions de travail. Ensuite, en 1910, il y a eu la proposition lors de la deuxième conférence internationale des femmes socialistes à Copenhague qui ont proposé de créer une journée internationale des femmes. Cette proposition-là avait une perspective révolutionnaire et son objectif immédiat était le droit de vote des femmes. Ensuite, l'année suivante, en réponse à cette proposition-là, il y a eu dans plusieurs manifestations dans plusieurs pays d'Europe et aux États-Unis. Puis, outre le droit de vote, les femmes revendiquaient le droit d'occuper des fonctions publiques et exigeaient le droit de travailler, élimination de la discrimination du travail. À cette époque-là, la date était le 19 mars, puis c'était en commémoration de la Révolution de 1848 et de la Commune de Paris. Ensuite, deux ans plus tard, En 1913, dans le cadre du mouvement pour la paix, les femmes russes ont célébré pour la première fois la Journée internationale des femmes à la fin février en organisant des rassemblements clandestins. Puis l'année suivante, en 1914, d'ailleurs en Europe, il y a eu des rassemblements autour du 8 mars pour protester contre la guerre. Ensuite, en 1910, c'est à ce moment-là qu'a débuté la tradition du 8 mars avec la grève des ouvrières de Saint-Pétersbourg qui réclamaient du pain et le retour de leur mari parti au front. Donc, cette journée-là était le début de la Révolution russe, en fait. Ensuite, en 1921, Lénine a décrété le 8 mars comme Journée internationale des femmes en souvenir des ouvrières de Saint-Pétersbourg. Puis, après 1945, donc après la Deuxième Guerre mondiale, la tradition s'est étendue à plusieurs pays dans le monde. Puis ensuite, dans les années 70, c'est à partir de ce moment-là que le 8 mars a rompu sa signification avec sa signification qui était communiste pour prendre une place plus symbolique dans la lutte des femmes. Puis c'est en 1977 que l'ONU, que les Nations Unies ont reconnu officiellement la Journée internationale des femmes. Donc, on peut voir qu'à la base, cette journée-là avait une signification plus socialiste. Puis après ça, les femmes radicales dans les années 70 ont repris cette journée-là pour la lutte des femmes.
Oui, bien exactement. Moi, je vais peut-être plus parler de la journée du 8 mars. Comment ça a commencé à être fêté, célébré au Québec, en fait? La première célébration aurait eu lieu en 71, dans le fond. On se rappelle que les années 70, c'est les années effervescentes, là, où est-ce que les mouvements sociaux sont très forts. On parle d'un syndicalisme fort, on parle d'un mouvement étudiant fort, on parle d'un mouvement féministe combatif, tout ça. Donc, c'est ça. Donc, on s'appelle... C'est la période que Micheline Dumont appelle pour cadrer avec le féminisme, la grande ébullition féministe qui est entre 69 et 80, les années 69 et l'année 80. Donc, on se rappelle aussi que des années 70, il y a beaucoup, beaucoup de conflits de travail, entre autres en éducation, dans la santé, les infirmières, les infirmiers qui sortaient dans la rue pour réclamer 100 $ par semaine et tout ça. Il y a un front commun. On se rappelle du Front commun, CSN, FTQ, CEQ qui se regroupent. C'est aussi là où il va y avoir l'arrestation des trois grands chefs, des trois chefs des centrales syndicales, en fait. Ce qui fait que, par rapport à ça, les femmes syndicalistes ont senti besoin de former des comités femmes dans les grandes centrales. Donc, c'est à partir de ce moment-là que la CSN, la CEQ et la FTQ créent des comités femmes. Ces comités femmes-là, il faut le dire, sont influencés par les analyses de l'extrême-gauche. Donc, c'est un féministe radical dont on entend parler, dans le fond, eux autres, ce qu'ils prônent comme les féministes de l'extrême-gauche, c'est l'amélioration de la condition des femmes par l'abolition du capitalisme. Donc, on voit que c'est très radical là, comme mm-hmm. féministe et tout. Puis, ce sont ces comités femmes-là qui ont repris par la suite l'organisation du 8 mars au Québec. Donc, c'est ces organisations-là qui se sont chargées d'organiser ce 8 mars-là. Puis, faut dire aussi qu'à l'époque, la FFQ puis la FEAS, les deux organisations féministes et féminines, fêtait pas encore à l'époque le 8 mars. Ça a été beaucoup plus tard, j'ai pas la date exacte, parce que le 8 mars était trop associé à un féministe qui est radical, alors qu'eux sont plutôt dans un féministe qui est réformiste. Mm-hmm. Donc, ça a pris du temps avant que ce soit fêté par l'ensemble des organisations au Québec le 8 mars. Mm-hmm. Puis par la suite, on sait que la FFQ organise à chaque année une marche pour le 8 mars et d'autres organisations comme ça de femmes.
Mm-hmm. Puis je crois que c'est aussi à cette époque-là que tu l'as mentionné, que les femmes ont senti pertinent de se constituer en comité qui n'était pas nécessairement non mixte, parce que justement, dans le milieu militant et révolutionnaire, il y avait beaucoup de machisme, pour utiliser le mot précis. D'ailleurs, quand le FLQ avait publié avait sorti son manifeste, le Mouvement de libération des femmes du Québec avait décidé d'en publier un autre en réponse et qui se voulait autant contre le machisme, mais aussi très révolutionnaire. Puis il s'est donné naissance à d'autres organisations.
En fait, peut-être pour faire une nuance, c'est pas à partir de ce moment-là que les femmes ont senti besoin de former que des comités non mixtes, parce qu'il y avait beaucoup d'organisations non mixtes aussi à la base avant, de tout temps, en fait, dans l'histoire du féminisme au Québec. Sauf que c'est à partir de ce moment-là, si on peut le mentionner, que les comités comité, par exemple, dans les syndicats, aurait été de s'appeler comité féminin ou comité féminine ou tout ça. Puis on s'est vraiment appelé féministe, comité de femmes ou des trucs comme ça. Mm-hmm.
Bien, on va peut-être en profiter, à moins qu'il y ait d'autres interventions, pour faire une pause, puis continuer par la suite sur le même sujet.
On va aller écouter une chanson qui a été amenée par nos invités.
C'est une chanson qui a été composée par Anne Sylvestre, mais l'interprétation dans cette de la version qu'on présente est de Pauline Julien. C'est une sorcière, une sorcière comme les autres.
Soyez comme le duvet, soyez comme la plume d'oie, des oreillers d'autrefois. J'aimerais ne pas être portefeuille, s'il vous plaît, faites-vous léger. Moi, je ne peux plus bouger. Je vous ai porté vivant, je vous ai porté enfant. Dieu, comme vous étiez lourd, pesant votre poids d'amour. Comme le ruisseau, comme le clair de l'étang qui reflète et qui attend. S'il vous plaît, regardez-moi, je suivrai. Je vous prie, ne m'inventez pas. Vous l'avez tant fait déjà. Vous m'avez aimé servante, m'avez voulu ignorante. Forte, vous me combattiez. Faible, vous me méprisiez. Vous m'avez aimé putain et couverte de satin. Vous m'avez fait de statue et toujours je me suis tue. Quand j'étais vieille et trop laide, vous me jetiez au rebut. Vous me refusiez votre aide quand je ne vous servais plus. Quand j'étais belle, s'il vous plaît.
soyez comme je vous ai. Vous ai rêvé depuis longtemps, libre et fort comme le vent. Libre aussi, regardez, je suis ainsi. Apprenez-moi, n'ayez pas peur. Pour moi, je vous sais par cœur. J'étais celle qui attend, mais je peux marcher devant. J'étais la bûche et le feu, l'incendie aussi je peux. J'étais la déesse mère, mais je n'étais que poussière. J'étais le sol sous vos pas, et je ne savais pas. Mais un jour la terre s'ouvre, et le volcan n'en peut plus. Le sol se rompt, on découvre des richesses inconnues. La mer à son tour divade, de violence inemployée. Me voilà. Vous ne serez pas noyé. Ce n'est que moi, c'est elle ou moi. Et c'est l'ancêtre ou bien l'enfant, celle qui cède ou se défend. C'est Gabrielle ou bien Eva, fille d'amour ou de combat. Et c'est mon cœur. Mère ou la vôtre, une sorcière comme les autres. S'il vous plaît, faites-vous léger. Moi, je ne peux plus bouger.
Donc, on est de retour en onde à la rage du peuple sur les ondes de CFLX 95.5. Puis, pour le temps qui nous reste avant la pause commerciale, on va vous présenter Jean-Michel. Nous, ici, à la rage, on a rencontré Jean-Michel dans une soirée de slam auquel il participait. Puis, on avait beaucoup aimé ce qu'il avait composé, ce qui était engagé très social. Et puis, nous, on a eu à l'idée, on s'est surtout fait proposer l'idée d'amener, de présenter des slameurs à notre émission de radio, puisque les slameurs ont souvent un contenu politique assez intéressant. Puis là, c'est Jean-Michel qui s'est présenté aujourd'hui pour l'émission. Puis justement, je crois, du matériel qui va être très contextualisé.
D'accord. Premièrement, je veux dire que c'est ma première expérience à la radio, puis je trouve ça extrêmement... je me sens privilégié d'être ici, puis de prendre la parole. Je vais essayer de le faire avec circonspection, c'est-à-dire je vais essayer d'entrer droit dans le sujet des femmes aujourd'hui. Il n'y a pas si longtemps de ça, puis c'est ce qui m'a surpris dans l'historique tantôt du féminisme, c'est que ça fait pas longtemps. De tout ça, l'histoire, c'est récent, puis c'est tellement récent que... Il pas si longtemps que ça, il y a quelqu'un qui s'appelle Saint-Cyprien qui disait « La femme, c'est l'instrument qu'emploie le diable pour posséder nos âmes. » Tu sais, je pense que juste ça, là, ça frappe d'un dent, puis ça fait pas longtemps que ça a été dit, ça. Bien avant ça, Pythagore disait « Ne permettez point à une femme de parler en public, d'ouvrir une école ou de fonder une secte ou un culte. » Tu sais, on avait peur, en fait, de ce que la femme pouvait faire. Ensuite, Saint-Paul a dit « Que les femmes se taisent dans les assemblées. L'homme, lui, ne doit pas couvrir la tête parce qu'il est l'image et le reflet de Dieu. Voilà pourquoi les femmes doivent avoir la tête sous un signe de suggestion. » Alors, c'est sympa.
Ça donne une bonne idée aussi comment on concevait les femmes. En fait, on ne les comprenait tout simplement pas, j'ai l'impression. Puis, il y a même des auteurs auxquels on prend comme référence pour l'Occident moderne, soit les Lumières, qui sont assez effrayants, comme Jean-Jacques Rousseau, qui considérait que le rôle de la femme était à la
maison.
Justement à la maison. Puis ce qui est malheureux, c'est Louis-Joseph Proudhon, qui est un théoricien anarchiste, qui avait un peu les mêmes idées, mais ça, on s'en défait.
Voilà. On peut toutes les nommer. Il y a Nietzsche aussi.
On parle aussi d'artistes, je veux dire. On peut parler de Brassens, misogyne ou de...
Ouais.
C'est présent dans les arts partout. Et puis, ces temps-ci, je regarde beaucoup qu'est-ce qui s'est passé dans la musique, dans les textes, dans la littérature. Puis on voit que la femme, je veux dire, même les femmes avant empruntaient un nom d'artiste d'homme, comme par exemple, je ne sais pas, George Sand. Oui,
exactement.
Il y a eu plusieurs Jane Rice ou tout ça qui ont utilisé des noms d'hommes pour parler parce qu'ils n'avaient pas le droit à la parole. J'aimerais continuer en citant quelqu'un que je respecte beaucoup. C'est un artiste qui s'appelle Akhenaton du groupe I Am. Je ne sais pas si vous connaissez...
C'est un groupe français assez classique. Là.
Absolument, très, très revendicateur aussi. Dans un texte qui s'appelle « La fin de leur monde », il parle des femmes. Il dit « On parle du droit des femmes quand leur mari les frappe, avec des clichés religieux sortis tout droit des fables. Comme si elles étaient bien depuis le Moyen Âge, mais c'est en 46 que s'est ouverte une nouvelle page. Maintenant, est-ce qu'elles nous valent? On dit dans les ouvrages. Pourquoi elles touchent moins de pognon à compétences égales? Pourquoi elles seraient moins faites pour être responsables alors qu'elles nous ont tous torché le cul nu dans le sable? » Et moi, c'est des paroles que je trouve qui frappent beaucoup.
Oui, c'est frappant.
Ceci étant dit... il me reste combien de temps?
On a facilement 4 minutes.
D'accord. Je vais enchaîner dans ce cas-là avec... Je n'ai pas écrit directement quelque chose sur le droit des femmes. J'ai plutôt écrit sur ce que les femmes peuvent vivre. Puis je pense que c'est ça qui est important de dire aussi, c'est que les femmes, non seulement à travers l'histoire, mais encore continuent de subir, pas juste une oppression, mais il y a beaucoup de violences faites à la femme, tout ça, et aux femmes en général. Et puis, j'aimerais vous citer des trucs que j'ai trouvés dans mes textes que j'ai composés à travers les années. C'est des petits bouts.
Shoot.
Alors, je shoot. Isabelle, 14 ans, trouve que la vie est cruelle. Elle qui était sensuelle, maintenant ne se trouve plus belle. On déplore que si jeune, les mecs se ruent sur elle. Pucelle, innocente, ils voulaient faire du sexe sur elle. La vie est cruelle. Agression sexuelle. Cette nuit dans la rue, elle la gardera pour elle.
Wow.
J'enchaîne sur quelque chose que j'ai écrit à propos de l'anorexie. C'est une chanson complète, mais je vous cite juste la fin parce que c'est ça qui est important à dire dans cette chanson-là. C'est qu'il existe en ce monde-ci mille et un récits de filles qui ont réussi et qui aujourd'hui l'apprécient. Maintenant, elles voient la vie plus belle et remercient le ciel de s'être accrochées à la vie. Elles diront que c'est peut-être dur, mais qu'au moins ça vaut la peine. SOS au milieu des eaux, elle se noyait dans sa peau, mais bon, maintenant un bateau la ramène. Elles s'unissent toutes aujourd'hui pour dire la phrase qui suit. Tu peux vaincre l'anorexie.
Ouais, c'est un problème dont on parle, mais de moins en moins, je trouve. On en entend moins parler dans les médias.
Je crois qu'on en parle pour les mauvaises raisons. Je veux dire, on va utiliser la publicité pour justement conscientiser les gens, mais je pense que la source première des gens qui ne se retrouvent pas dans leur propre corps, c'est la publicité, puis c'est l'idée de la représentation d'une femme qu'on peut se faire. Qui mène à ce phénomène-là.
Absolument. Toute l'influence extérieure qui va créer la pression. Mm-hmm. T'sais.
C'est la même histoire qu'avant. Je veux dire, avant, on donnait une identité à la femme qui était une idée masculine. Puis c'est encore la même chose. On donne une idée de la femme qui est marchandisée, qui est faite pour vendre, mais qui est aussi faite pour répondre aux besoins, surtout des hommes.
Thio et Claudel, on parle depuis tantôt de la femme en début d'émission. Oui, ben c'est ça, en fait... est-ce que vous pouvez dire comment est-ce que de dire la femme, ça crée un peu une image d'identité unique autour du sexe féminin?
Oui, ben en fait, quand on parle de la femme, on renvoie surtout à l'idée d'un objet unique standardisé, en fait, où est-ce qu'il n'y a pas une pluralité de personnes qui peuvent avoir cette identité-là de femme. C'est pour ça qu'on parle des femmes et non de la femme. Je ne sais pas si Claudel avait quelque chose à rajouter là-dessus.
Ben en fait, je pense que la pertinence est plus de parler des femmes parce qu'il y a différents groupes qui sont touchés, puis il n'y a pas une femme... sous un modèle unique.
Il n'y a pas de femme avec un grand F.
Voilà.
OK, bien, on va se laisser sur ça pour l'instant pour continuer avec la pause musicale et publicitaire. Donc, à tout de suite. Donc, c'est déjà tout pour la pub. On est de retour sur les ondes de CFLX 95.5 à la Rage du Peuple, émission d'actualité sociale et politique. Et aujourd'hui, le féminisme. Donc, on était avec Thuro, Claudel et Jean-Michel et Jean-Martin et moi-même Guillaume, et on va continuer sur le thème de, du féminisme.
Devigny a dit quelque chose d'extrêmement intelligent. J'ai lu ça, ça fait pas très longtemps. Il dit « Après avoir étudié la condition des femmes dans tous les temps, dans tous les pays, je suis arrivé à la conclusion que, au lieu de leur dire bonjour, on devrait plutôt leur demander pardon, tu sais, en fait. » Puis en lisant ça, je pense que quelqu'un qui a vraiment étudié l'histoire du féminisme ou l'histoire des femmes en général, je pense qu'on... On est à même de leur dire. Alors, Thio et Claudel,
ouais,
je pense que
c'est des paroles qui font un déclic dans la tête. Je veux dire, quand tu lis ça, tu te demandes, OK, pourquoi demander pardon? Puis après ça, ça te rappelle plusieurs trucs. T'sais, on peut parler, entre autres, de l'oppression par rapport à l'équité salariale ou peu importe.
Une idée qui nous vient tout de suite en tête, c'est quand on pense à tout ce que l'homme a pu faire d'horrible, ben il y a une minorité encore plus facilement exploitable que, je veux dire, les hommes en général, puis c'est les femmes, puisqu'ils ont toujours été, violentées. Donc, on va prendre l'esclavagisme qui a affecté autant les hommes que les femmes, mais ça a dû affecter encore plus les femmes, parce que c'était justement dans l'idéologie dominante, ben les femmes étaient inférieures et on pouvait en faire pire.
Oui, la violence est toujours là, je pense. Là, je veux dire, les femmes vivent encore des situations de violence conjugale, quoi, c'est ça, mais la violence est ailleurs aussi. Tu sais, quand on parle juste, mettons, de GHB, tu sais, t'es dans un bar, t'es avec, mettons, tes amis, majoritairement hommes, mettons. Tous les hommes vont fumer dehors, laissent leur verre sur la table. Mais toi, tu sais, c'est une violence aussi d'avoir à traîner ton verre puis à y penser, tu sais, puis à tout le temps te sentir harcelé dans le fond par cette idée-là. Tu sais, je veux dire, la violence se retrouve partout, elle n'est pas nécessairement physique non plus.
C'est une menace latente permanente.
Oui, c'est ça, permanente. Tu sais, pour moi, en tout cas, je suis quand même inquiète quand je marche dans la rue le soir. C'est pas normal. Tu sais, c'est pas normal.
C'est pour ça que je pense qu'il y a un des. Ce vers quoi le féminisme en fait, pas nécessairement le féminisme au complet, mais une bonne partie, c'est dans le fond la fin de la différenciation des genres, parce que je crois pas qu'il y ait vraiment à considérer, hormis quelques spécificités biologiques mineures, qu'il y a une différence entre l'homme et la femme. Puis encore là, comme tu dis, je veux dire, on a tous le même potentiel créatif, le même potentiel de force. On a tous le même potentiel dans l'absolu. Alors, je vois aucunement pourquoi les garçons, c'est bleu, les filles, c'est rose. Puis, autant de différenciation dans la langue qui est faite pour inférioriser la femme, pour la contraindre à une certaine idée qu'on s'en fait, qu'on s'en est fait, puis qu'on continue à se faire. Faut en finir avec ce mythe-là.
Puis, pour citer Judith Butler, je pense que le genre est une performance qui est culturelle. Donc, c'est une pratique qui est apprise dès l'enfance, à prendre des comportements ou des réactions vis-à-vis si on est un homme ou une femme.
Puis les gens qui défendent ces identités-là, puis qui les crient sur la scène publique, comme les radios poubelles en général, dans les médias ou tous les gardiens de la moralité, c'est du monde qui se pose même pas cette question-là, parce que de toute façon, ils ont intérêt à ce que les gens maintiennent le mythe, justement, de ces identités-là, où est-ce que la femme est faible, soumise, dépendante, puis tout ça. Puis, tu sais, ce qui est le plus dommage dans tout ça, moi, ce qui m'affecte le plus, c'est de voir des femmes, parfois, le croire puis l'intégrer, donc.
Puis, tu sais, on se dit que c'est plus d'actualité. Je veux dire, le combat s'est déroulé il n'y a même pas 20-30 ans. Puis j'ai encore entendu de mon vivant des gens, des filles dire que c'était naturel que leur chum gagne plus qu'elles, sans m'apporter aucune raison, sans aucun argument. C'est vraiment inscrit dans leur tête, puis il faut en finir avec ce mythe-là.
Ben moi, j'ai plus tendance à être un féministe radical. Je pense que, entre autres, le féministe a sa raison d'être, parce que tant qu'il y aura un système capitaliste, parce que comme Jean-Martin, il a dit exactement le mot intérêt, ils ont intérêt à garder les femmes au service des hommes en général, puis à garder cette oppression-là envers les femmes. Ça sert le système capitaliste, exactement.
Puis même les femmes chefs d'entreprise ou les femmes premières ministres, ça va pas changer le fait que c'est la structure qui est l'héritage d'une société patriarcale avec, je sais pas qu'est-ce que vous en pensez, mais parfois je pense que il y a en fait le féminisme met de l'avant l'égalité homme-femme, tandis qu'il y a certaines on peut mettre de l'avant les femmes au pouvoir comme des avancées féministes, mais je pense que
l'oppression reste là,
puis c'est pas parce que une femme est au pouvoir que les femmes vont arrêter d'être oppressées dans les structures économiques puis sociales. Mm-hmm. Puis de la même manière que c'est pas parce que Barack Obama est élu que les Noirs vont arrêter d'être opprimés. Tu sais, il y avait un chef de police de New York qui était black, puis ça a pas changé qu'il y avait encore des assassinats de blacks.
Puis je tiens à dire aussi, quand on parle de féminisme radical, faut pas se faire peur. Radical, qu'est-ce que ça veut dire? Ben, c'est d'aller à la racine du problème.
Okay, parce que moi, j'ai eu peur quand j'ai entendu radical. J'ai dit, OK, ils vont-tu mettre des bombes?
Non,
un féministe radical, au contraire, c'est justement, comme Guillaume l'a dit, c'est un féministe qui va à la racine du problème.
Je pense que les féministes l'ont visé depuis longtemps. Le problème, c'est quoi? C'est le patriarcat. Et on a beau avoir autant de femmes au Parlement qu'on veut, le patriarcat tient encore bien parce qu'il n'est pas uniquement déterminé par l'État. Il n'est pas seulement déterminé par qui est au pouvoir, mais c'est une structure qui est plus ancienne que le capitalisme. Puis il faut le combattre. Mm-hmm. Il faut le combattre non seulement dans l'État et la religion, mais il y a aussi la famille, les rapports sociaux, les lieux de travail. Il faut le combattre partout.
C'est absolument. Puis c'est de comprendre aussi peut-être que c'est d'être plus fort ensemble. Il y a déjà tellement de choses qui nous divisent dans la société. Il y a déjà tellement, que tu sois grand, petit, blanc, noir, que tu sois un homme, une femme, il y a tellement d'outils pour diviser que déjà, si les femmes font une lutte en voulant dire, tu sais, on veut pas que ça soit la femme qui domine, on veut l'égalité, on se bat pour l'égalité, on veut agir ensemble, ben c'est ça qui est fort là-dedans, tu sais, c'est qu'il y a déjà assez de trucs qui nous séparent, tu sais, comment il faut s'unir.
Mais quand on parle de s'unir puis d'être unis, je pense qu'il y a quand même parfois une pertinence aux organisations non mixtes. Qu'est-ce que vous en pensez?
Oui, bien, quand on le prend dans son contexte, c'est tout à fait légitime. Je pense que
qu'est-ce qu'on entend par...
C'est-à-dire des groupes qui peuvent être formés dans des moments où est-ce que les femmes vont être dans des organisations exclusivement constituées de femmes. Est-ce que une de vous deux voudrait l'expliquer plus en détail?
Moi, je vais parler, en fait, je parlerai pas au nom du comité du 8 mars, mais je vais parler de mon expérience à moi. Moi, comment je vois la chose, c'est que je trouve que la lutte du féminisme, c'est une lutte qui ne touche pas que les femmes, mais qui doit être prise en main par les femmes quand même. Ça doit être elles qui mènent la lutte. Par contre, je suis pour les comités de travail mixtes, en fait, les comités de lutte, les comités d'organisation, d'action et tout ça. Mais il faut être consciente aussi que cette lutte-là se base sur des réalités sociales, des réalités, puis qu'il faut qu'il y ait un espace où est-ce que les femmes puissent se rencontrer, parler entre elles,
s'exprimer sans retenue,
partager leur expérience, puis faire des constats sociaux sur la condition, parce que le féminisme radical, c'est aussi le privé. Dans le fond, le privé et public, tu sais, je veux dire, qu'est-ce qui se passe à la maison, ce n'est pas que privé, le personnel n'est pas que privé, c'est public, c'est d'ordre public, c'est un phénomène social. Donc, je suis pour qu'il y ait des espaces de travail entre femmes, de réflexion entre femmes, puis de mise au point, puis je suis pour qu'il y ait un comité de lutte, en fait, qui se fasse avec les hommes, parce que la lutte doit se faire accompagner des hommes.
Ouais. Donc, le comité non mixte sera un outil qui permettra aux femmes de pouvoir s'exprimer sans nécessairement avoir... Parce que souvent, la dynamique dans des groupes, c'est que les hommes vont s'exprimer davantage que les femmes, puis ça favorise tout simplement l'opinion de personnes qui s'expriment moins.
Exactement.
En fait, je pense que le but des caucus non mixtes est d'apprendre à prendre sa place, puis à partager ses expériences personnelles pour comprendre qu'on n'est pas toute seule à vivre ça. Puis il y a une structure derrière qui amène à des comportements puis des expériences qui sont partagées par plusieurs femmes.
Je pense qu'on va en rester là pour le moment parce qu'on va rejoindre Blandine qui se trouve à Montréal pour nous partager ses expériences de militante sur le féminisme et bien plus encore. Mais pour effectuer la transition, on va aller écouter une chanson du groupe The Clash. Donc, on va tout de suite revenir après. À bientôt.